VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francis.
13h18, 14h à Kinshasa. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité américaine. Ce lundi 21 août, pour la première fois en 99 ans, une éclipse solaire totale va traverser les États-Unis, plongeant dans l'ombre une diagonale allant du nord-ouest au sud-est du pays. C'est la ruée des accros pour observer au plus près ce phénomène. Le point avec Idriss Fall.
Restaurant, hôtel, affiche complet sur sa trajectoire. Il s'agit de la première éclipse totale à survoler les États-Unis depuis le 8 juin 1918. Quelques 12 millions de personnes veulent observer ce qui débutera à l'extrême nord-ouest du pays et deviendra total éclipse sur Lincoln Beach dans l'état de l'Oregon à 16h05 GMT selon la NASA. Fred Espenac prévoit de se rendre dans le Wyoming avec 17 appareils photo. Cette disparition du soleil en plein jour dure environ une minute, parfois deux. Les scientifiques savent les prédire avec une précision extrême, presque à la seconde près. En moyenne, une éclipse est visible quelque part sur la planète tous les 16 mois. Différentes cultures y voient une intervention divine ou celle d'un démon. La NASA, agence spatiale américaine, a beau prévenir contre les idées fausses, mais rien n'y fait, car les croyances ont la peau dure.
Conflit en Afghanistan, le président Donald Trump doit dévoiler ce soir la nouvelle stratégie des États-Unis en Afghanistan où les troupes américaines sont militairement engagées depuis 16 ans. Le chef de l'exécutif prononcera un discours à la nation à ce sujet à Fort Myers, une base située au sud-ouest de Washington. Hier, le secrétaire à la défense James Mattis a précisé que la nouvelle stratégie ne couvrirait pas seulement l'Afghanistan mais toute l'Asie du Sud. Relation entre les États-Unis et la Russie, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Anatoly Antonov a été nommé ce lundi ambassadeur de Russie à Washington. C'est ce qu'annonce un communiqué du Kremlin. Considéré comme un diplomate chevronné, M. Antonov, 62 ans, va remplacer à ce poste l'ambassadeur Sergei Kislyak, accusé par les médias américains d'avoir conspiré pour faciliter l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche après qu'il ait été révélé ses rencontres avec les conseillers du candidat républicain. La lutte contre les djihadistes en Espagne, la traque de Younes Abou Yacoub, le conducteur en fuite de la camionnette qui a tué 13 personnes à Barcelone, continue et s'est étendue ce lundi à toute l'Europe. Le signalement du Marocain de 22 ans y a été transmis à toutes les polices du continent. Par ailleurs, une manifestation de la communauté musulmane contre le terrorisme est prévue ce soir à Barcelone et la police espagnole a révélé que les auteurs des attaques ayant fait un total de 15 morts se préparaient à commettre d'autres forfaits. Rosine Munezero.
Selon le chef de la police catalane, Joseph Luis Trapero, les auteurs des attaques de jeudi et de vendredi s'apprêtaient à commettre un ou plusieurs attentats. Un raté a entraîné la déflagration dans la maison qu'ils occupaient depuis 6 mois à Alcanar, à 200 km au sud-ouest de Barcelone. Au moins 120 bonbonnes de gaz ont été découvertes par la police en inspectant les décombres. Moins de 24 heures après cette déflagration, la cellule a perpétré un double attentat avec des véhicules béliers à Barcelone et à Cambrils. 12 suspects ont été identifiés et interpellés, mais le conducteur de l'une des camionnettes court toujours.
Afrique maintenant, RCA, le calvaire des humanitaires continue dans le pays suite à la recrudescence des violences. Mais les ONG ne veulent pas capituler dans leur mission d'aide aux civils. Elles ont célébré le 19 août dernier la journée mondiale de l'aide humanitaire sur fond d'inquiétude. Objectif, briser la chaîne de la fatalité de Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Entre janvier et juillet 2017, plus de 200 incidents ont ciblé les humanitaires en Centrafrique, alors que plus de 800 civils ont péri durant cette même période. Yves Ambomou Guicha travaille à l'ONG World Vision.
Les civils pris dans un conflit ne sont pas une cible d'attaque. C'est important de rappeler que les civils ont des droits.
Le travail d'assistance aux personnes en détresse n'est plus chose facile en Centrafrique. Début août, 9 volontaires de la Croix-Rouge ont été tués dans les violences à Gambo dans le sud-est. À cela s'ajoutent les nombreux cas de braquage des bases des ONG par des hommes armés. Face à la détérioration de la situation, la ministre des Affaires sociales appelle à une mutualisation des efforts. Virginie Baïkwa.
La protection de la population incombe au gouvernement, mais dans le contexte centrafricain où le pays ne dispose pas d'une armée, où cette mission est confiée à la force internationale de la MINUSCA, la mutualisation des efforts est la seule solution appropriée.
La République centrafricaine traverse à nouveau, depuis le début de l'année 2017, une période d'instabilité, notamment marquée par une forte recrudescence de la violence. Le nombre de personnes ayant besoin d'assistance humanitaire est passé de 2,2 en janvier à 2,4 millions en juin 2017. Aujourd'hui, 600 000 personnes sont déplacées sur l'ensemble du territoire. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement et les syndicats sont parvenus à un accord sur une série de revendications qui minaient la fonction publique ivoirienne. L'accord conclu prévoit notamment le paiement d'arriérés de salaire. D'Abidjan, les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tonkara.
Applaudissements, chaudes poignées de main et accolades, c'est l'épilogue de 8 mois de négociations, souvent houleuses, entre le gouvernement ivoirien et les organisations syndicales de travailleurs. 8 mois de discussions pour trouver un accord sur une série de revendications à l'origine de plusieurs mouvements de grève qui ont paralysé l'administration et les services en novembre et janvier dernier. Théodore Nyanyazadi, président de la plateforme des organisations professionnelles du secteur public.
Oui, nous sommes satisfaits parce que c'est une fin heureuse pour les fonctionnaires. Depuis de longs mois, nous avons mené une lutte avec plusieurs points de revendication et nous avons obtenu pratiquement les 90% de nos revendications. Donc nous ne pouvons qu'être heureux. Et en plus, le point qui cristallisait toutes les passions depuis plusieurs années, notamment le solde des arriérés évalué à près de 250 milliards, vient d'être résolu avec un chronogramme de paiement, je pense, qui est satisfaisant pour tous.
Soro Mamadou est le secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme. Il se réjouit lui aussi de la conclusion de ces accords.
Nous notons qu'il s'agit d'une amélioration des conditions sociales des travailleurs mis à la retraite, des travailleurs en activité. Et aujourd'hui, participer à la signature d'un accord qui consacre le paiement du stock des arriérés, naturellement, consacre au moins une issue heureuse pour cette revendication majeure, essentielle pour l'ensemble des fonctionnaires agents de l'État de Côte d'Ivoire.
Dans le texte paraphé par les syndicats et le gouvernement, l'État ivoirien s'engage notamment à payer près de 250 milliards de francs CFA, soit 447 millions de dollars d'arriérés des revalorisations salariales et à abandonner la réforme de la retraite, une réforme adoptée en 2012 et qui n'était pas du goût des fonctionnaires. L'accord prévoit également une trêve sociale de 5 ans. Sur ce dernier point, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly espère que les différentes parties respecteront leurs engagements.
C'est une trêve donc sur une durée de 5 ans pendant laquelle les syndicats se sont engagés à discuter avec le gouvernement pour trouver des solutions à tous les problèmes qui pourraient se poser et arrêter toute grève pendant cette période. Et le gouvernement a aussi indiqué toute sa détermination à être à l'écoute des syndicats pour que dans un cadre nouveau, apaisé, que nous puissions discuter de toutes les questions qui sont d'intérêt national. Donc je me réjouis de cette conclusion aujourd'hui et de la signature de cet accord.
La Côte d'Ivoire compte officiellement près de 183 000 fonctionnaires. Georges Ibrahim Tunkara, Abidjan, VOA Afrique.
Zimbabwe, Grace Mugabe, la première dame du pays, est de retour à la maison après avoir obtenu l'immunité diplomatique auprès des autorités sud-africaines. Les détails avec Jean-Roger Bion.
Le président Robert Mugabe et la première dame sont arrivés hier à Harare. Les autorités zimbabwéennes avaient demandé à Pretoria l'immunité diplomatique pour Grace Mugabe, qui lui a finalement été accordée. Grace Mugabe est sous le coup d'une plainte pour coups et blessures contre une mannequin. Gabriela Angels, 20 ans, affirme avoir été agressée violemment par la première dame dans un hôtel de Johannesburg le 13 août. Selon les médias sud-africains, deux fils de Grace Mugabe se trouvaient dans le même établissement. AfriForum, une organisation qui défend la top modèle, a dénoncé ce départ en secret et la culture de l'impunité des dirigeants corrompus qui se protègent entre eux. L'Alliance démocratique, principal parti de l'opposition sud-africaine, a dénoncé la complicité du gouvernement qui a permis à Grace Mugabe de fuir en pleine nuit pour éviter des poursuites.
L'Angola vote mercredi pour des élections générales qui marquent la fin de 38 ans de règne de la part du président José Eduardo dos Santos. Au pouvoir depuis l'indépendance de l'ancienne colonie portugaise en 1975, le MPLA, le Mouvement Populaire pour la Libération de l'Angola, devrait une nouvelle fois l'emporter et installer son candidat et dauphin désigné, l'ex-ministre de la Défense, João Lourenço, dans le fauteuil du chef de l'État. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.